Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre discussion de la Décalogue, les 10 commandements, et je vais ajouter à cette série de sermons un troisième sermon sur le cinquième commandement. Ça fait beaucoup de chiffres, n'est-ce pas? Mais nous allons quand même continuer à examiner de près les enseignements bibliques concernant une relation parent-enfant qui est établie sur les principes bibliques sur une relation saine. Et bien sûr, ce n'est pas l'objectif de simplement nous limiter à l'enfance, mais aussi à notre relation familiale pendant toute notre vie. Ce n'est pas un commandement limité aux enfants, ce n'est pas pour les tout-petits, ce n'est pas pour les adolescents seulement, ce n'est pas simplement pour les jeunes adultes, c'est pour nous tous. Et nous avons tous besoin de comprendre les attentes de Dieu dans la pratique de former et d'évoluer, d'éduquer notre famille, donc et les relations familiales. Donc, comme vous le savez, nous avons bien sûr certains ici qui ont des enfants adultes et d'autres qui sont encore en train d'élever leurs enfants, mais nous sommes tous concernés par ces choses parce que nous avons tous la possibilité d'impacter, d'avoir une influence sur ceux qui sont en relation avec nous. Donc, nous allons revenir à ce que nous avons lu déjà, et c'est le cinquième commandement. Donc, je vous invite à considérer Exode 20, Exode chapitre 20, et le verset 12 pour commencer aujourd'hui. Exode 20 et le verset 12. Et nous allons noter aujourd'hui un aspect très particulier qui fait partie de ce serment en particulier, un aspect que je trouve très important dans, si vous voulez, l'approche. Dans l'approche d'enseigner nos enfants à honorer leurs parents. Donc, Exode 20 et le verset 12. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc, même sans évoquer, sans dire le mot « famille », nous avons intégré dans ce commandement le concept, l'idée de la famille et de la relation familiale. N'est-ce pas merveilleux que, ici, dans ce commandement, l'implication, c'est une relation étroite et efficace et une relation saine entre membres de la famille, entre enfants et parents. Donc, même sans le dire, le mot « famille » n'apparaît pas, mais les éléments sont là. Les éléments de la famille sont là. Ils se trouvent là. Malheureusement, dans notre ère actuelle, dans notre société actuelle, cette relation saine n'existe pas dans plusieurs familles. C'est dommage et c'est le sujet de quelque chose qui était déjà prévu par l'apôtre Paul il y a très longtemps. Considérons 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Si nous lisons ces avertissements de l'apôtre Paul, en contraste avec ce que nous venons de lire concernant la relation idéale pour la famille, nous allons trouver que voilà, Paul était bien, bien inspiré parce qu'il a pu comprendre les choses bien en avant et les choses qui allaient continuer jusqu'à la fin de l'ère présente. Donc, aujourd'hui, nous observons, nous constatons que le monde ne connaît pas Dieu, le monde ne connaît pas la loi de Dieu. Et nous constatons que la voix de l'homme ne produit pas le fruit de l'esprit, ne produit pas la bonté et la bénédiction et le comportement que Dieu souhaite de son peuple. Son peuple appelé est en train d'être préparé pour un rôle particulier dans le royaume de Dieu. Donc, 2 Timothée 3, nous allons quand même mentionner d'autres aspects d'autres avertissements de comportements qui sont négatifs, qui sont contre la volonté de Dieu, mais qui sont quand même pratiqués, si vous voulez, partout aujourd'hui. Et au lieu de considérer des choses qui sont du passé, nous voyons en examinant ce verset-là, ce passage ici, que tout ce que l'apôtre Paul a prévu est tellement vrai. C'est tellement à propos de notre jour. Donc, 2 Timothée 3 et le verset 1. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Donc, il y a un avertissement. Il y a un avertissement pour le peuple de Dieu, pour Timothée, pour ce jeune évangéliste qui se prépare pour un rôle. Si vous voulez, c'est Paul qui va passer le bâton à Timothée dans un sens. Donc, il est quand même vrai qu'à cette époque-là, ces attitudes existaient déjà. Je dirais que nous sommes avertis nous-mêmes que ces choses arriveront jusqu'au temps du retour de Jésus-Christ. Donc, c'est ça les derniers jours. C'est notre ère maintenant. Mais c'était vrai à cette ère aussi, à l'époque de Paul et Timothée. Mais c'est intense, n'est-ce pas? C'est un avertissement intense avec plusieurs aspects concernés. Mais quand nous considérons ces aspects mentionnés, ces avertissements, nous voyons que ce n'est pas du tout loin de la réalité quotidienne de ce que nous observons aujourd'hui. Ce n'est pas un extrême aujourd'hui, c'est le statu quo aujourd'hui, toutes ces choses, malheureusement. Et même aujourd'hui dans notre société, certaines de ces choses sont considérées comme acceptables, comme comportement normal, comme quelque chose même à mettre en pratique pour obtenir nos propres désirs. C'est une société poussée par le désir partout, n'est-ce pas? Donc, nous observons parmi ces avertissements, un avertissement très à propos à notre sujet aujourd'hui. L'idée des hommes qui vont, et même des femmes, et même, si vous voulez, des enfants, des adultes, et tout le monde, qui seront pas concernés à obéir à leurs parents. Donc, l'idée ici, c'est que toutes ces choses sont mauvaises, ils ne sont pas de bons comportements, et mélanger là-dedans, ce n'est pas juste une sorte de désobéissance. Ici, dans le français, c'est mentionné « rebelle à leurs parents ». En anglais, c'est plutôt désobéissance. Ici, c'est vraiment l'aspect de rebelle à leurs parents, de vraiment être en rébellion contre les parents. Mais je dirais que ça commence avec la désobéissance. Mais si vous êtes en train de désobéir pendant votre enfance, qu'est-ce que cela va produire en tant qu'adulte? Ça va éventuellement passer à quelque chose souvent plus intense, plus mauvais, quelque chose plus sévère, comme la rébellion complète. Donc c'est une attitude, et si vous voulez, je dirais que c'est un choix dans notre société aujourd'hui. C'est un choix pour les gens aujourd'hui de se maltraiter, se limiter, de ne pas se corriger, mais de continuer à obtenir dans leur égoïsme, si vous voulez, leurs propres désirs, ou à chercher à les obtenir. C'est une façon, si vous voulez, de vivre. C'est le statu quo de notre monde actuel. Et c'est ça l'avertissement de Paul. C'est que Dieu a inspiré à Paul, à nous, révéler ces choses en tant qu'avertissement. Et nous les observons, nous les considérons, et l'idée aussi, c'est de ne pas imiter ces choses, de ne pas se laisser aller en imitant la société autour de nous. Et si jamais on identifie quelque chose que nous commençons à faire, l'idée c'est de se repentir, c'est de s'excuser, c'est de chercher à changer de cap, à faire mieux et à s'améliorer, à faire mieux dans nos relationnels. En particulier, beaucoup de ces choses concernent les relations entre personnes. Donc, ce sont des attitudes, mais plusieurs de ces attitudes ont un impact sur les autres. Donc, l'idée d'être rebelle aux parents est très sérieux. Ce commandement, le cinquième commandement, est très sérieux aussi. Et donc, nous avons tous besoin de prendre le temps nécessaire de méditer notre comportement envers nos parents et la façon que nous enseignons nos enfants à nous honorer en tant que parents. Donc, même en tant qu'adulte, le commandement, le cinquième commandement, est très pertinent. Donc, nous ne sommes pas satisfaits en tout temps de ne pas être rebelles. Nous devons quand même chercher à remplacer le mal avec le bien, chercher à démontrer de l'amour pour nos parents et à chercher à vraiment les honorer dans l'esprit et dans la lettre. Et la dernière fois, nous avons mentionné Matthieu 15 et l'idée des pharisiens de s'échapper de cette responsabilité par la lettre de la loi, par leur propre loi à eux. Mais nous cherchons à faire le bien en tant que disciples de Jésus-Christ. Nous cherchons à mettre de côté l'impact et l'influence de la société et à puiser dans la parole de Dieu. Donc, encore une fois, le titre de ce série, c'est « Aider vos enfants à vous honorer ». Et c'est quelque chose que je voulais répéter parce que nous sommes tous impliqués, que nous soyons parents ou que nous soyons encore dans une relation avec nos propres parents. L'idée, c'est d'être en continuité dans toutes ces choses-là, de ne pas avoir des écarts et d'imiter les bons exemples de la Bible. Donc, c'est pour ça que nous sommes tous impliqués, et l'idée, c'est de souligner l'honneur, souligner l'importance de ce commandement. Donc, vite fait, nous allons juste revoir rapidement, si vous voulez, les lignes de conduite pour cette série de sermons. Je vais le faire assez rapidement. L'idée première, c'est de montrer l'exemple. C'est de montrer l'exemple. Si vous êtes en train d'apprendre à vos enfants à honorer vous comme parents, à vous honorer, vous êtes quand même censé de démontrer l'honneur envers vos propres parents. Donc, notre exemple est très parlant. Et donc, si jamais il y a un écart, il faut le corriger, il faut faire mieux et il faut démontrer que vous réussissez à montrer le bon exemple et de ne pas simplement en parler. Donc, deuxièmement, il faut en parler, il faut intentionnellement, si vous voulez, parler de ces choses en tant que leur éducation spirituelle pour nos enfants. Donc, il faut prendre le temps d'expliquer l'honneur, d'expliquer ce que c'est, d'expliquer vos attentes et les attentes bibliques à propos de comment nos enfants sont censés de nous honorer. Donc, bien sûr, il est beaucoup mieux si nous avons nos propres exemples de comment nous honorons nos propres parents. Donc, troisièmement, si vous voulez, dans une ligne de conduite, quelque chose à tenir en compte pendant ces discussions, c'est qu'il faut reconnaître que de ne pas honorer nos parents est quelque chose de très grave, que ce n'est pas Bien sûr, c'est la transgression de la loi. Mais aujourd'hui, je voulais vous dire que dans notre société, on n'a pas de sens de la transgression de la loi, du péché. On se dit, si mon parent me traite d'une façon, j'ai le droit. Je suis autorisé à dire n'importe quelle chose, à vider mes sentiments envers eux, et de critiquer, à insulter, à maltraiter. Les gens se justifient dans leur mauvais comportement aujourd'hui. Et donc, ce que je veux dire, c'est que la société autour de nous ne va pas nous montrer le bon exemple. Donc, il faut, entre nous, en tant que membres de l'Église, il faut souligner l'importance de ne pas laisser passer ces choses de côté et de considérer ces choses au sérieux. Donc, aujourd'hui, nous allons nous focaliser plutôt sur l'idée de permettre nos enfants à comprendre les bénédictions qui sont associées avec l'honneur. Donc ça, c'est notre objectif aujourd'hui, c'est d'apprendre à nos enfants les bénédictions associées avec l'honneur. Et je trouve très intéressant, nos enfants ont besoin d'apprendre ces choses, mais si nous lisons de nouveau Exode 20 et le verset 12, je trouve intéressant que notre Créateur, l'Éternel Dieu, c'est lui qui nous instruit à honorer nos enfants avec une promesse, avec une bénédiction associée. Et si vous voulez, tant que je médite ces choses, je trouve ça comme un modèle pour nous aussi. Nous avons le modèle que quand nous instruisons l'honneur à nos enfants, nous l'instruisons avec l'idée que l'obéissance ou l'honneur aux enfants, aux parents, va porter quelque chose de bien. Il y a un bon résultat associé avec l'obéissance de ce commandement. Et ça veut dire que l'approche est importante. L'approche, et si vous voulez, ça peut tomber dans la mauvaise approche assez rapidement. Comment allons-nous enseigner l'honneur? Comment allons-nous le faire? Certainement, des fois, nous sommes, en tant que parents, nous sommes fatigués. Des fois, nous sommes distraits. Des fois, nous n'avons pas eu de bons exemples dans nos propres vies. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que des fois, quelque chose qui n'est pas correct va sortir. Des fois, nous pouvons, même en essayant d'enseigner l'honneur à nos enfants, nous pouvons le faire d'une façon qui n'est pas positive, une façon qui est décourageante. Donc, si vous voulez, le cinquième commandement n'est pas l'excuse de traiter vos enfants de façon mauvaise. L'idée, avec l'honneur et la bénédiction qui en résulte, c'est d'orienter les enfants envers les bénédictions qui attendent nos enfants quand ils respectent les commandements de Dieu. N'est-ce pas intéressant que Dieu commence avec ce début dans cette relation familiale? Moi, je trouve ça très intéressant. Si nous ne faisons pas ça correctement, si peut-être nous sommes trop durs avec nos enfants, même si nous pouvons dire c'est pour t'enseigner à m'honorer, si nous sommes trop durs avec nos enfants, ça risque d'être un découragement pour eux. Le modèle que Dieu nous donne, même à l'intérieur de ce commandement, c'est un modèle d'amour, de paix et de bénédiction. Donc, c'est ça le contexte de l'apprentissage de nos enfants. C'est ça le modèle, c'est ça l'idéal. C'est d'apprendre à nos enfants quelque chose dans un contexte paisible, un contexte qui est sain, un contexte qui les encourage à faire le bien de leur propre cœur. C'est pas l'idée de dominer et de décourager et d'abaisser nos enfants en tout temps jusqu'au temps qu'ils vont nous honorer. Vous savez ce que je veux dire. Ça existe dans le monde autour de nous et malheureusement, ça peut exister dans l'Église de Dieu si on ne fait pas attention. Mais ce n'est pas le modèle que Dieu nous illustre ici. Mais pour illustrer ça un petit peu plus, repentons-nous en Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Ce n'est pas seulement ce cinquième commandement, mais Paul, encore une fois, il est capable de nous expliquer un petit peu plus le pourquoi et les impacts de ce commandement. Si vous voulez, c'est lui qui nous explique dans un sens l'esprit derrière cette loi. Et c'est très important, n'est-ce pas, en tant que chrétien, de comprendre la lettre et l'esprit de la loi de Dieu. Donc, Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, nous voyons, nous observons ici, que c'est un rappel de l'apôtre Paul. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est un rappel de l'apôtre Paul qui nous encourage, qui nous exhorte à ne pas simplement ignorer ou laisser passer cet exemple envers nos enfants. Vous allez dire, ah, il commence en parlant aux enfants, mais oui, mais juste après, il s'adresse au Père aussi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette proximité, cette explication qui va avec. Donc, lisons ici à partir du verset 1. « Enfants, d'abord bien sûr, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. » Verset 3. « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Donc, deux fois, intéressant, n'est-ce pas, au verset 1 et au verset 4, nous avons « selon le Seigneur ». Selon le Seigneur, très, très important. Notre Seigneur Jésus-Christ nous démontre l'exemple d'amour, de persévérance, de miséricorde et de patience et un exemple parfait. Et donc, notre objectif, c'est d'imiter notre Seigneur Jésus-Christ autant que possible. Nous sommes quand même des humains, mais l'idée, c'est que ces choses soient faites d'après l'exemple de Jésus-Christ. Si nous sommes soumis à l'exemple de Jésus-Christ, notre rôle en tant que parents sera amélioré. Si nous sommes soumis à Jésus-Christ en tant qu'enfant même, notre rôle en tant qu'enfant même, obéissant et respectueux, sera amélioré. Donc, intéressant, il cite l'apôtre Paul, il cite le commandement et il l'explique davantage dans un contexte du Seigneur, dans un contexte de Jésus-Christ et son exemple parfait. Et c'est ça qui fait que ce commandement n'est pas démodé. Ce commandement n'est pas censé d'être dur, dans un sens trop dur sur les enfants. Vous allez dire, bah, le mot correction, qu'est-ce que ça veut dire? On va y revenir. Mais il y a l'idée d'avoir une approche proactive, d'avoir une approche qui ne veut pas provoquer l'enfant, qui ne tape pas dessus en tout temps, mais qui explique, qui démontre l'amour et qui va éduquer l'enfant dans la bonne voie, dans le Seigneur. Donc l'idée, c'est de faire le mieux pour le futur, pour le développement de l'enfant. Et même, en même temps, nous avons cette explication pour les enfants simple et très, très, très directe. Obéissez à vos parents selon le Seigneur. Donc, c'est une bonne chose. C'est complet. C'est quelque chose qui est entier quand il explique comme ça. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de provocation. Il n'y a pas de maltraitement. Et tout est sain et tout est censé pour l'amélioration de cette relation. Et bien sûr, pour d'autres buts que nous allons mentionner aussi. Donc, si nous sommes selon le Seigneur, alors nous observons en tant qu'individus les commandements de Dieu. et nous reconnaissons la justice de Dieu, nous reconnaissons la puissance, la droiture de Dieu, et nous nous humilions devant Dieu. Nous allons nous soumettre à ses commandements, à sa volonté. Et c'est ça le modèle à imiter. Donc la promesse que nous avons encore répétée ici, que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre, est double. La promesse est double. Est-ce que quelqu'un a déjà promis devant vous quelque chose comme « tu seras heureux si tu fais ça »,« tu serais heureux si tu faisais ça ». L'idée, c'est de toucher à ton sentiment de paix, à ton approche et à ton esprit mental, si vous voulez. Mais d'avoir la paix et d'être heureux, c'est quelque chose que nous cherchons tous, n'est-ce pas? Nous cherchons une vie heureuse. Et c'est ça un objectif sain. C'est bien de chercher une vie heureuse. Une vie qui dépend de Dieu. Et je trouve, moi, que cette bénédiction, cette promesse est renforcée dans l'Église aujourd'hui. Nos enfants qui sont élevés dans les foyers, qui soulignent l'honneur, le respect, l'obéissance à Dieu, ils sont dans un sens protégés. Ils sont sous une parapluie de protection naturelle, je dirais. Parce que en apprenant l'honneur, en apprenant comment se comporter, ils commencent à comprendre comment se comporter dans la société aussi. Donc, ça commence à la maison, bien sûr. Donc, nous savons que quand je dis protection, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais d'accident qui va survenir chez nos enfants. Mais ce que je veux dire, c'est dans leur relationnel, dans leur interaction avec les autres, il y a une certaine protection, une défense qui est donnée de comment se comporter d'une façon saine. Et c'est bien pour la société aussi. Dans le programme des camps pour les jeunes aux États-Unis, et bien sûr dans le monde entier, nous essayons de créer un environnement pendant la semaine ou les jours du camp qui incorpore le modèle et la voix de Dieu, la voix divine. Nous essayons bien en avant de préparer un thème, un verset biblique et des instructions, des présentations de la vie chrétienne et toutes sortes de choses. Mais nous essayons également à créer un environnement au camp d'été dans lequel nos enfants peuvent vraiment bénéficier de la paix et du respect et de ce modèle, si vous voulez, idéal, quand les gens mettent en pratique la voie divine. Et nous savons ce qui se passe quand nos enfants doivent rentrer à l'école et quand ils vont passer leurs semaines et leurs jours avec d'autres personnes autour d'eux qui sont des fois de mauvais exemples. Nous savons que c'est une lutte dans la société. Ce n'est pas du tout limité à nos enfants, mais c'est quand même une lutte pour nos enfants. Et donc, l'idée d'établir un environnement au camp d'été, ça enlève le stress de toutes ces choses-là. Nos enfants peuvent se comporter comme ils devraient, sans avoir la critique et le mauvais exemple tout autour d'eux. Et c'est ça notre objectif. Notre objectif, c'est de leur donner un espace, un environnement dans lequel ils peuvent mettre en pratique ce qu'ils apprennent à la maison, de leurs parents, et bien sûr de l'instruction biblique. Donc, les deux se complètent, l'environnement à la maison et l'environnement au camp se complètent. Et c'est avantageux. Et donc, c'est quelque chose qui vaut beaucoup de méditation et de prière, et beaucoup d'efforts. Ça se fait pas tout seul, bien sûr. Et alors, nous avons la possibilité quand même de l'effectuer. Et c'est je dirais que c'est une des raisons pour la réussite de notre programme, c'est que les enfants ressentent une différence. Quand ils sont dans le programme, quand ils sont là au camp d'été ou au camp d'hiver, ils ressentent la différence. Et il n'y a pas de Timothée 3 partout autour d'eux. Ça existe bien sûr dans le monde, mais ce n'est pas partout. Ils ne sont pas obligés de faire face à toutes ces choses-là. Ils peuvent se concentrer la bonne voie. Et donc, pour vous montrer de nouveau le sérieux derrière ce commandement, il est important, encore une fois, à ne pas oublier le sérieux derrière ce commandement. Donc, pour illustrer le sérieux que la Bible donne à ce commandement au niveau du respect et de la rébellion, considérons vite fait deux exemples d'Exode. Exode 21. Parce que, comme je vous ai dit, nous avons le côté positif, bien sûr. Il faut commencer avec le côté positif, l'idée que ce commandement, en l'obéissant, ce commandement va vous apporter des bénédictions, va produire quelque chose en vous et dans votre vie. Mais en même temps, le non-respect, l'oubli ou le contraire, la transgression de ce commandement ressemble à ceci. Exode 21, nous avons deux exemples très près ici. Verset 15, assez rapide pour vous montrer le sérieux. « Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. » Et puis verset 17, « Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Donc voilà, on établit la base ici du respect, et si jamais il y avait une question sur la possibilité de respecter un parent et en le frappant comme ça ou maudissant, Dieu a déjà clarifié, il a déjà expliqué vraiment et clairement les conséquences. Donc, je trouve que il faut peut-être considérer le fait que cette pénalité-là, la pénalité qui est la mise à mort, la punition de mort, est l'équivalent de la pénalité associée avec le blasphème aussi. Donc, si vous voulez, la pénalité du blasphème, c'est en blasphémant Dieu, c'est un non-respect de Dieu. C'est le manque d'honneur et c'est maudire Dieu. Donc, il y a une pénalité de mort associée avec cela aussi. Malheureusement, les gens aujourd'hui peuvent se justifier dans plusieurs comportements malsains et certains aspects, certaines attitudes que nous avons déjà mentionnées dans 2 Timothée peuvent vraiment, si vous considérez les attitudes mentionnées, ils peuvent faire en sorte que les choses soient de pire en pire dans le relationnel. Les gens commencent à se justifier, l'avarice en particulier qui est mentionnée, pousse les gens à faire le mal. L'avarice et les désirs poussent les gens à faire le mal aux autres, même leur propre famille. Je trouve intéressant, si vous considérez aussi avec moi, Proverbe 20, c'est comme une répétition un peu de ce que nous venons de dire, mais ça ajoute quelque chose aussi, juste après. Proverbe chapitre 20. Proverbe 20. Nous allons considérer la proximité ici, qui est intentionnelle, je crois, parce que les deux versets concernent la famille. Ils sont à propos de la famille. Je vais vous expliquer ça. En commençant avec Proverbe chapitre 20 et le verset 20, nous avons quelque chose qui semble comme Exode 21. « Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. » C'est très imagé, n'est-ce pas? Et puis le verset 21. Le verset 21, tout près, « Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Intéressant. Un héritage promptement acquis. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui fait qu'un héritage soit promptement acquis? Une chose qui vient à l'esprit, c'est l'idée de négliger les parents, négliger une personne âgée qui est dans le besoin. Et malheureusement, les gens aujourd'hui sont tellement sans foi que les gens se maltraitent juste pour avoir accès à l'héritage, n'est-ce pas? L'héritage, c'est quelque chose qui, malheureusement, provoque beaucoup de batailles, beaucoup de maux dans la société aujourd'hui. Et ça touche aux parents aussi. Vous pouvez imaginer un enfant qui va maltraiter son parent, qui va placer son parent, qui ne va pas dépenser l'argent suffisant pour s'occuper des besoins de ses parents à cause de l'avarice. C'est vraiment malin de devoir le dire. C'est dommage que je suis obligé de constater ces choses, mais c'est une réalité dans notre époque actuelle. Et ça ressemble un peu à Matthieu 15, que nous avons mentionné la dernière fois. L'idée que mon argent n'est pas pour s'occuper de mes parents. N'est-ce pas mauvais ça, quand les gens s'éloignent de leurs parents en essayant de ne pas perdre, si vous voulez, leurs propres fonds? C'est triste, n'est-ce pas? Si nous considérons ceci, dans la société entière, nous voyons que nos aînés aujourd'hui sont souvent ciblés. Ils sont vraiment ciblés par les appels téléphoniques, par les courriels, les choses pour essayer de convaincre ces personnes âgées à ouvrir leur compte bancaire, à donner de l'argent à quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas réel. Même les gens frappent à la porte des fois pour promettre des choses, des réparations sur la maison. Ils vont proposer des choses, ils vont demander beaucoup d'argent de nos aînés. Et c'est quelque chose qui illustre les problèmes dans la société et aujourd'hui, et le non-respect de nos aînés. Moi, j'ai eu même dans ma propre famille une fois un membre de ma famille aux États-Unis qui avait des problèmes. Bien sûr, il avait des gros problèmes, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de voler mes grands-parents. Mes relations familiales étaient au courant, mais même les grands-parents étaient au courant. Mais pour eux, ils voulaient donner à cette personne en amour. Ils voulaient pas dire non. Et cette relation familiale cherchait toujours à prendre davantage, à voler de l'argent, à leur convaincre qu'il avait besoin toujours de plus d'argent. Et le restant de la famille disait « Non, fais pas ça !» C'était encore leur décision à l'époque de quoi faire avec leurs propres fonds, bien sûr. Mais les autres essayaient de dire il vous vole à chaque fois. Et c'est quelque chose, encore une fois, l'idée d'avoir ou acquérir un héritage promptement, c'est ça l'idée. C'est toucher à l'argent, c'est s'engager à faire quelque chose et puis recevoir de l'argent qui n'est pas juste. Donc il y a des exemples multiples, mais pour illustrer aujourd'hui le manque d'honneur, il est très important de considérer ces choses, parce que c'est tellement loin de ce que Dieu nous instruit dans sa parole. Nous avons même l'exemple du fils prodige qui était qui avait dépensé son héritage aussi d'avance. Donc c'est quand même un exemple qui existe depuis longtemps. Aujourd'hui, en tant que parents, nous sommes censés d'instruire nos enfants l'honneur, tout en respectant les règles, mais aussi l'honneur de pouvoir devenir indépendant un jour en tant qu'adulte. Et qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, dans notre société, nous avons une mentalité chez les jeunes qui existe, qui veut dire, pendant ma jeunesse, pendant je suis jeune adulte ou je suis adolescent, moi, je peux faire ce que je veux. Mes actions n'ont pas de conséquences. Moi, j'attendrai plus tard pour la réalité. Moi, je vais faire comme mon propre rêve. Je vais vivre comme je voudrais. Je vais négliger les choses que je dois. Je vais négliger. Je vais oublier certaines choses que je sais parce que je vais passer des années à explorer le monde, à faire ce que je veux. Et malheureusement, c'est comme très, très connecté à ce que nous lisons dans la parabole du fils prodige. Donc, nous sommes quand même avertis que ça arrive, mais c'est une attitude aussi qui fait en sorte que, à plusieurs reprises, les parents deviennent ceux qui s'occupent de ces adultes-enfants, ces adultes qui se comportent comme des enfants. Et c'est dommage parce que ça affaiblit la société en général. Nous sommes censés de contribuer, d'avoir de la productivité, d'aider les autres dans la société et de ne pas juste passer des années à faire notre propre volonté. Mais c'est une attitude qui existe aujourd'hui. Les jeux vidéo, les jeux sur Internet, les médias sociaux font partie de ces choses. Il y a eu même des exemples où un couple marié depuis quelques années, d'un coup, on va trouver qu'un membre de ce couple-là s'adhère à un jeu vidéo et ce membre de cette famille-là commence à s'éloigner de sa propre famille à cause de ces jeux vidéo. Et ils sont branchés en tout temps, jour et nuit, et ils s'éloignent de leur propre relation en réalité, dans le vivant. Donc, les relations, le manque d'honneur, le manque d'appréciation de ces relations, ça crée beaucoup de problèmes dans notre société. Donc, des fois, dans la société aujourd'hui, nous ne considérons, ou je dirais, les gens ne considèrent pas le fait que leurs actions ont un impact sur les autres. On a l'impression de vivre aujourd'hui dans une bulle. On a l'impression que, en particulier chez les jeunes, on a l'impression que moi je vis dans ma propre bulle, mais je peux faire ce que je veux, je peux dire ce que je veux, et ça n'a pas d'impact sur les autres. Mais qu'est-ce qui se passe quand cette bulle est rompue? C'est qu'on découvre rapidement que nos actions ont toujours, même si nous vivons dans une société qui est branchée à l'Internet et des choses comme ça, même si nous ne sommes pas dépendants de nos voisins comme on était dans le passé, nous trouvons aujourd'hui même que les actions d'un tel ont un impact sur les autres. Mais encore une fois, c'est une vague, c'est une tendance dans la société aujourd'hui de penser que les actions n'ont pas d'impact sur les autres. Et c'est la même chose avec le manque d'honneur. Le manque d'honneur, c'est un cheminement, si vous voulez, vers la punition et le regret et la déception, mais les gens ne le voient pas, ils ne l'observent pas. Par contre, l'honneur, l'idée d'honorer, non pas seulement les parents, mais les autorités en général, apprendre ça à jeune âge, ça c'est le cheminement vers les bénédictions et la vie. C'est ça la promesse. C'est ça la promesse. Donc, nous pouvons chercher, nous pouvons nous fixer ce but-là dans notre relation familiale, de chercher une vie paisible, un contentement, une vie qui nous prépare pour l'avenir. Et donc, en tant que parents, ce n'est pas suffisant simplement d'attendre de nos enfants de l'honneur. Comme je vous ai mentionné, il faut délibérément enseigner à nos enfants l'obéissance. Qu'est-ce que ça veut dire l'obéissance? Donc, il faut, on va en parler, mais il faut délibérément apprendre à nos enfants l'obéissance. Donc, encore une fois, ce serment aujourd'hui, ça fait partie de cette série de serments. Nous avons mentionné déjà plusieurs choses. Et l'aspect actuel maintenant, c'est comment apprendre à nos enfants l'obéissance. Reportons-nous en Deutéronome. Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6. Et nous allons lire à partir du verset 6. Deutéronome 6, versets 6 et 7. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Donc, déjà, bien sûr, il faut que pour nous, en tant qu'individus, il faut qu'on y travaille, n'est-ce pas? Il faut qu'on travaille là-dessus, que ça soit dans notre cœur, que ça fait partie de nous. Mais aussi, ce n'est pas suffisant. Verset 7, tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Intéressant, j'ai un flash, ça me fait penser que nous, en tant que famille, la famille Harper, nous passons pas mal de temps en voiture. Et alors, quand nous allons nous déplacer, ça, c'est très à propos à notre famille, quand nous sommes en voyage, parce que nous sommes souvent en voyage. Et alors, beaucoup de nos discussions, des fois, se passent dans la voiture. On a des discussions assez importantes qui sont dans la voiture des fois, parce que c'est le lieu d'interaction, c'est l'endroit où on se situe assez souvent. Mais bien sûr, on est encore de temps en temps chez nous aussi, mais ce verset-là me fait penser qu'il y a toujours, même si on est en déplacement, même si on est en voyage, il y a la possibilité de discuter ces choses de façon saine, de façon délibérément. Je trouve que le mot clé ici, c'est l'idée que tu inculqueras, tu les inculqueras à tes enfants. L'idée, vraiment, ça implique la diligence, de les inculquer. Ce n'est pas léger, c'est une tâche vraiment fondamentale, essentielle. Et alors, en même temps, nous avons le sens ici déjà dans les deux versets que l'enseignement ou l'éducation dans l'honneur, c'est un processus en continu. Que c'est quelque chose qui est en continu, est applicable en tout temps, qui demande la patience, qui demande la diligence. Il faut, encore une fois, il faut y penser, il faut avoir des stratagèmes, il faut avoir des méthodes aussi. Et il y a plusieurs années, ma femme et moi ont facilité un programme pour les parents, pour élever leurs enfants, pour l'éducation des enfants. C'était quand nous étions à Atlanta. Et je me souviens toujours, un exemple de ce programme, c'était assez drôle parce que il y avait des vidéos qu'on utilisait en soutien de notre discussion en classe. Et donc, les vidéos nous illustraient certains comportements à corriger chez les enfants. Des avertissements et des méthodes à utiliser quand nous faisons face à certaines problématiques. Donc, il y avait l'histoire de petit Timothée. Donc, la petite histoire de petit Timothée, pour la vidéo en question, on a petit Timothée qui s'assoit devant le téléviseur. Il est en train de regarder la télé. Et donc, sa mère sort de la cuisine et elle dit, « Timothée, il est l'heure à manger. » Et sans le regarder, sans regarder sa mère, Timothée reste là et dit, « D'accord, maman. » Et donc, il ne bouge pas. Il dit « D'accord, maman », mais il ne bouge pas. Et cette séquence, si vous voulez, se répète à plusieurs reprises. Et à chaque fois que maman revient pour appeler Timothée à table, qu'est-ce qui se passe? Elle devient de plus en plus frustrée. Et donc, Timothée, « Ok, mam, d'accord, maman. » Donc, il répète ces choses, il ne bouge pas réellement. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs reprises après, c'est Timothée, avec une voix vraiment forte, Timothée, va maintenant à table, tout de suite. Dirige-toi à table. Et puis, hop, Timothée a peur dans ses yeux et il s'en va vers la table. Et qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? L'idée de cette illustration, c'est que nous, en fait, finalement, c'est nous qui sommes le maître de cette situation. Nous sommes les parents, si vous voulez, qui vont instruire à nos enfants comment se comporter. Et si nous permettons à nos enfants d'attendre le moment où nous les adressons à haute voix, avec beaucoup de frustration, en donnant peur, c'est ça qu'ils vont apprendre. Et c'est ça qui va rester dans leur comportement. Et donc, ils ne vont pas répondre à première reprise. Ils ne vont pas répondre à la première parole. Ils vont attendre parce que c'est nous qui avons décidé de les permettre d'aller jusque-là. L'idée, c'est que pour analyser la situation, il faut comprendre que nous aussi, nous avons un impact. Ce n'est pas juste l'enfant, c'est la façon que nous éduquons l'enfant, n'est-ce pas? Et ça, c'est juste l'un des exemples de plusieurs que nous avons eu dans ce programme pour l'éducation des enfants. Bien sûr, quand nos enfants deviennent adultes, il est nécessaire pour eux de comprendre la signification. Même, excusez-moi, avant d'adulte, en tant qu'adolescent, il est nécessaire pour nos enfants de comprendre aussi les résultats et la signification morale de l'obéissance. Donc, on ne peut pas simplement enseigner à l'enfant une obédience, une réponse qui est basée sur la peur. L'idée, c'est qu'il faut expliquer à l'enfant, si on demande quelque chose à l'enfant quand il est adolescent, il faut pouvoir l'expliquer aussi que en faisant ça, ça apporte quelque chose de bien. Parce que l'enfant va demander pourquoi. L'enfant va chercher, si vous voulez, une sorte de compréhension de la situation. Et c'est ça qui fait que dans d'autres situations, l'enfant est capable d'obéir aussi. Si nous apprenons l'obéissance, l'idée, c'est que l'enfant obéit éventuellement pas juste comme le petit Timothée, quand il a peur, mais parce qu'il comprend que c'est important. Il comprend le résultat de l'obéissance et du respect. Donc, c'est intéressant parce que ce cours avait donné beaucoup d'exemples, mais c'est pour illustrer que, comme je vous ai dit, comme l'Éternel nous a dit, il faut le faire vraiment de façon pour inculquer à nos enfants ces choses, pour parler avec nos enfants du pourquoi aussi. Pas juste l'obéissance sans compréhension, et l'obéissance qui développe l'enfant. Donc, en tant que parents, nous devons rappeler à nos enfants l'importance de l'obéissance. Et peut-être même, à un moment donné, nous devons commencer à expliquer le contexte de l'autorité en général et le fait que l'obéissance à la maison va rendre service plus tard, va les préparer pour l'avenir. Et donc, bien sûr, Jésus-Christ et Dieu le Père, ils méritent l'honneur et la louange. Mais d'après Dieu, même nous, en tant que parents, qui sommes imparfaits, nous méritons aussi l'honneur de nos enfants, excusez-moi. La connexion est assez intéressante. L'importance de la vie parentale, de l'influence des parents, est essentielle dans la vie d'un enfant. Donc la connexion, si vous voulez, le lien entre l'obéissance aux parents et l'obéissance à Dieu est très étroite. Mais l'obéissance ne vient pas par défaut. Donc, si nous cherchons à souligner l'obéissance chez nous, il faut aussi considérer la correction. Si la correction est un mot, si vous voulez, tabou dans la société aujourd'hui, c'est parce que les gens ne comprennent pas le but de la discipline, de la correction. Donc, l'honneur doit doit prendre place dans la vie d'un enfant avec une discipline, avec de la correction et avec diligence. Aujourd'hui, malheureusement, il y a un gros écart dans la société aujourd'hui. Aujourd'hui, notre société nous dit, faites ce que vous voulez. Il n'y a pas d'impact. Vous faites ce qui est bien dans vos propres yeux. Donc, c'est très important de se rappeler de l'importance de la correction et la discipline dans la vie d'un enfant. Donc, considérant Proverbe 13, Proverbe 13 et le verset 24. Proverbe 13, verset 24. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Cherche à le corriger. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est un laisser-passer? Pour un abus? Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout une permission chez les adultes d'abuser leurs enfants. Non, pas du tout. Mais il est essentiel que l'enfant puisse bénéficier de la correction. Il faut que l'enfant apprenne, même si ça demande une correction de sa voix, il faut qu'il apprenne à céder, à écouter, à obéir à l'autorité. L'honneur ne peut pas vraiment devenir brillant dans la vie d'un enfant si l'environnement est trop laissé passer, trop laissé faire. Il faut des limites, il faut des règles, il faut des conséquences pour la désobéissance aussi. Et une autre chose que le programme nous a illustré, c'est que souvent le parent n'est pas vraiment motivé à définir les limites. Donc, ce qui se passe, c'est que les parents sont pas clairs sur ce qui est OK, ce qui n'est pas OK, et l'enfant fait ce qu'il veut, et puis après avoir franchi la règle, l'enfant est puni. Mais le parent n'explique pas pourquoi. Il n'explique pas d'avance non plus les règles, les limites du comportement. Et l'idée, comme je vous ai mentionné déjà, ça touche à Deutéronome 6 aussi, c'est que nous sommes censés de passer du temps à expliquer ces choses à nos enfants, à définir les limites de conduite, les limites, les choses qu'il ne faut pas faire, les choses qui ne sont pas acceptables, au lieu de simplement devenir un parent fâché quand il nous irrite, par exemple. Ça, c'est le contre-exemple de ce que Dieu cherche. Donc, l'honneur ne peut pas exister si l'enfant ne peut pas comprendre ses propres conséquences, ses propres règles, et si les choses ne sont pas non plus consistantes. Si nous sommes toujours en train de changer les règles avec les enfants, s'il n'y a pas de limite, et si on devient fâché avec eux, sans qu'ils comprennent pourquoi, ça ne va pas produire le fruit que nous cherchons. Donc c'est encore un avertissement envers nous tous, dans le sens de fixer les limites et de s'expliquer envers nos enfants. Nous savons déjà, comme nous sommes au proverbe, considérant Proverbe 22, nous connaissons déjà ce proverbe, mais c'est dans le contexte de ce serment aussi. C'est un proverbe très à propos, si vous voulez, et je trouve très inspirant. Parce qu'il y a un impact, il y a un résultat, et il y a même, je dirais, il y a un espoir. Parce que des fois, en tant que parents, nous sommes un peu perturbés parce que nous ne voyons peut-être pas les résultats tout de suite. Nous sommes comme assez humains des fois et nous cherchons que les choses changent rapidement. Mais je trouve que ce verset ici, ce proverbe, nous explique aussi la durée, la durée de cette éducation. Le fait que ça ne se fait pas dans une journée, ça, c'est une question de plusieurs années qui existe ici. Et en même temps, pour moi, ça illustre aussi l'importance de continuer l'éducation dans l'adolescence et le temps des jeunes adultes aussi, que notre influence n'est jamais rien, quoi, que notre influence est toujours là en tant que parent. Proverbe 22 et le verset 6. Proverbe 22 et le verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est une belle promesse, n'est-ce pas? C'est un beau proverbe. Moi, j'aime beaucoup un commentaire à propos de ce verset qui s'appelle le commentaire de la Bible Cambridge. Donc, je trouve que ce qui est ici assez pertinent et je l'ai trouvé assez intéressant aussi. Le commentaire nous explique que même si nous avons compris une chose ici assez claire dans l'éducation des enfants, nous considérons l'idée de la voie qu'il doit suivre, n'est-ce pas? Et l'idée de son âge, sa maturation, si vous voulez, son progrès dans la vie. Mais ce qui est impliqué, que nous ne lisons pas, que nous ne comprenons pas, sans examiner un peu davantage l'hébreu, si vous voulez, c'est que ce mot ici est vraiment individualiste. Ce mot ici pour sa voix, l'idée ici de cette voix, la voix qu'il doit suivre, c'est une voix pour lui. C'est ça qui est expliqué dans le commentaire, ce commentaire-là. Ce qui est expliqué, c'est que ce n'est pas seulement les principes d'éducation physique, intellectuelle, morale et spirituelle qui sont pareils pour tout le monde, mais dans l'implication de ce proverbe, nous avons l'idée d'une adaptation. Une adaptation de toutes ces choses, si vous voulez, pour l'individu en question. Que l'adaptation de toutes ces choses, cette éducation physique, intellectuelle, morale, spirituelle, est vraiment adaptée pour que cette personne, pour que cet individu soit bien dirigé pour sa vie, pour son développement. Et c'est le mot en hébreu, karnak. Karnak qui implique la discipline dans le sens d'une formation, mais individuelle. Donc, c'est l'idée de ce mot train up ou dans l'anglais ou l'idée ici de instruire l'enfant, c'est le mot karnak et ça veut dire une formation, une discipline, quelque chose qui est consistant. Et donc il y a d'autres mots pour l'instruction et la correction. Un autre mot souvent utilisé c'est moussar. Qui est spécifiquement la correction, est très intéressant. Ce mot hébreu « moussar » apparaît 50 fois dans l'Ancien Testament. Mais 30 fois de ces 50, c'est dans les proverbes. 30 fois dans les proverbes et 20 fois par ailleurs. Donc, les proverbes sont vraiment accentués vers l'éducation, la correction, la discipline dans la bonne façon de nos enfants. Et je trouve ça intéressant. Donc, si nous considérons Proverbe 13, nous avons un bon exemple et un contre-exemple en même temps chez l'enfant. Nous avons les instructions pour les parents ici et nous avons les instructions pour les enfants aussi. Proverbe 13 et le verset 1. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Donc ça, c'est encore le mot karnak ici, et ça implique une formation, une voie d'instruction. Donc c'est quelque chose de très, je dirais, très formel dans un sens où le résultat est pour le long terme. Mais intéressant, ça continue. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Le moqueur n'écoute pas la réprimande. Donc, nous avons quand même le contre-exemple ici pour expliquer l'importance et la teneur de ce commandement et de cette explication dans l'éducation des enfants. Si vous voulez, cette instruction se passe comme c'était noté dans plusieurs endroits déjà aujourd'hui. Cette interaction, si vous voulez, a lieu dans une relation étroite entre parents et enfants. Une relation étroite est essentielle pour pouvoir réussir dans l'éducation des enfants. Pas une relation d'éloignement, de distance, une relation froide, mais une relation étroite. Tant que c'est possible, dans ce cas-là, nous sommes obligés en tant que parents à développer cette relation et à entretenir cette relation étroite. Considérons Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, encore l'apôtre Paul qui insiste sur les relations personnelles dans la vie, en particulier dans la vie de l'Église. Nous avons une instruction ici vraiment orientée vers les membres de l'Église ici, applicable à nous tous aujourd'hui. Donc c'est mêlé avec d'autres versets concernant différents types de relations, mais au sujet d'aujourd'hui, c'est très pertinent. Colossiens 3, le verset 20. « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. » Intéressant parce qu'il est censé d'apporter, comme je vous ai mentionné déjà, un bien. L'idée du pourquoi. Pourquoi obéir? Pourquoi faire ça? En tant que parent, avez-vous déjà reçu la question « Pourquoi ?» Si ce n'est pas le cas, je ne sais pas. Vous n'avez peut-être pas parlé avec un enfant récemment. Il pose la question « Pourquoi ?» en tout temps, n'est-ce pas? Mais ici, c'est comme si l'apôtre Paul prend le temps de dire aux enfants même « Cela est agréable au Seigneur. » Donc, il est intéressant parce que ça considère la relation non seulement avec les parents et l'enfant, mais aussi la relation avec Dieu. L'implication de la relation avec Dieu est essentielle aussi, comme nous avons mentionné dans le Seigneur avant, dans Éphésiens 6. Et maintenant, cela est agréable au Seigneur. Et juste après, encore dans une sorte de modèle, comme nous avons lu déjà dans Éphésiens 6, nous avons le verset 21. « Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'il ne se décourage. » Donc, il y a un pourquoi même pour nous en tant que père. Nous ne voulons pas avoir une relation avec nos enfants qui permet ou qui produit le découragement. Ça ne veut pas dire qu'ils sont censés de toujours être heureux avec nos choix. Le découragement ici est très sérieux. L'idée, c'est qu'ils se détournent de leur joie, de leur réjouissance, qu'ils perdent leur sens de bien-être. Ça, c'est très, très sévère. Donc, l'idée, c'est d'encourager. Si on prend l'opposé, l'inverse de cela, c'est encourager vos enfants pour qu'ils soient encouragés. Donc, traitez bien vos enfants pour qu'ils soient encouragés. Donc, si vous voulez, au cœur du sujet, il y a des façons à enseigner, à éduquer qui sont efficaces. Et ça, cela dépend de la relation étroite entre enfants et parents. Et il faut cultiver, si vous voulez, la responsabilité du parent à cultiver cette relation chez nous. C'est une relation qui demande la confiance et le respect mutuel. Le respect mutuel. Parce que, à la fois, nous comprenons le commandement, le numéro 5, c'est l'idée, l'honneur, c'est pour les parents. Mais le respect, c'est aussi pour les enfants. C'est une relation qui demande le respect pour la personne. Si nous sommes en train de décourager nos enfants, les provoquer, les faire sentir comme ils sont rien, par exemple, de les critiquer en tout temps et critiquer leur personne, de faire en sorte qu'ils sont pas valables dans leurs propres yeux, ça va être décourageant. Et c'est contre la parole de Dieu, c'est contre l'amour que Dieu voudrait que nous exprimons dans nos relations. Donc, les enfants apprennent dans un environnement où ils se sentent aimés et en sécurité. C'est le lieu d'apprentissage idéal. On doit créer, comme on a fait au camp d'été, comme on essaye de faire chaque année au camp d'été, on doit créer chez nous un environnement comme ça, en sécurité, en amour, un environnement où l'enfant se sent libre à apprendre et en paix. Et c'est ça le lieu de l'apprentissage. C'est ça l'ancre, si vous voulez. Il y a un ancrage qui se fait à ce moment-là. D'autres moments, quand les choses sont instables et quand l'enfant est en insécurité, l'enfant ne peut pas vraiment incorporer ces choses de la bonne façon. C'est aléatoire. Mais chez les parents, c'est important de créer ces environnements, cette ambiance, si vous voulez, chez nous. Quand nous considérons ces versets comme le Proverbe 22, verset 6, les parents doivent se rendre compte que c'est leur rôle. C'est leur rôle. Ce n'est pas le rôle des enseignants. Ce n'est pas le rôle des grands-parents. Ce n'est pas le rôle d'un tel, mais c'est leur rôle. Et depuis des années, ma femme et moi, nous avons à plusieurs reprises considéré le fait que nous sommes vraiment les seuls qui sont obligés et qui vont vraiment apprendre nos enfants la bonne voie. Nous sommes responsables pour cette tâche monumentale. Et on peut imaginer que d'autres personnes, ils ont une influence, ils ont de très bons enseignants et d'exemples comme ça, mais ça tombe sur les épaules des parents. Et l'idée, je crois, c'est pas simplement les nourrir et les envoyer à l'école, c'est prendre le temps de parler avec eux de ces choses pendant leur enfance, leur adolescence et même, je dirais, ça peut continuer en tant qu'adulte, en tant que cette relation très importante. Idéalement, jusqu'à l'âge d'adulte, les enfants peuvent continuer à apprendre la sagesse de leurs parents. Ça, c'est l'idéal. Donc, quand nous approchons, quand nous prenons l'approche d'apprendre à nos enfants la voie divine avec du respect, avec de l'amour, avec de l'écoute, avec la possibilité que eux, quand ils sont assez âgés de le faire, quand ils ont l'âge pour le faire, ils doivent pouvoir s'expliquer aussi. Alors, il y a un échange qui se fait et la relation est là et de bonnes choses se produisent après. Donc, nous aussi, nous prenons le temps d'organiser notre vie afin de pouvoir passer du temps avec nos enfants, d'être présents et d'avoir des discussions dans ce lieu. C'est certain que ce n'est pas toujours possible d'avoir un lieu idéal. On peut toujours chercher quelque chose à améliorer, mais le lieu que nous avons, le lieu quand nous avons fait de notre mieux, c'est ça, c'est le moment de passer cette discussion, cet échange avec nos enfants. Donc voilà, il faut créer ces opportunités et il faut quand même considérer le relationnel. Quand nous allons apprendre à nos enfants l'obéissance, la discipline, le respect, l'honneur, c'est dans un contexte non seulement individuel dans un sens où c'est moi le parent et c'est toi l'enfant, il faut aussi ouvrir la porte à la compréhension sur le long terme aussi, tant que l'enfant commence à comprendre. Et c'est ça que Dieu veut de nous, c'est de commencer à expliquer les bénédictions qui sont associées avec la voix divine et à créer un environnement qui est capable de les modeler, de leur donner quand même à nos enfants un lieu pour qu'ils puissent pousser et pour qu'ils partent jamais de cette bonne voie. Donc aujourd'hui, nous allons terminer avec ça. Et la prochaine fois, nous allons passer du temps à parler un petit peu plus de l'honneur quand il y a des frontières à établir en tant qu'adulte. Donc, aujourd'hui, nous nous arrêtons et nous allons continuer la série une autre fois.